Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, des filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Something drown, but you can't kill an idea whose time has come.
Je vais être bref, les amis, car au sommaire de cette émission, il va y avoir un autre palmarès 2024, donc je ne vous en dirai pas plus. Vous allez découvrir quel est notre film, quel est notre livre, quel est notre disque de l'année pour nous tous, les chroniqueurs de Culture Prohibée. Et justement, les chroniqueurs, mais qui sont-ils, ces chroniqueurs? Eh bien, ils sont là, ils sont dans le studio, ils sont vaillants, ils sont musclés, beaux, huilés, et ils sont prêts à partir à l'assaut. Ridley, Gladiator 3, ce sera avec nous, forcément. Eh bien, dans ce studio, Damien Demédi, la bête noire de Compiègne, archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur et gladiateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimératech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, un autre gladiateur, Thomas Roland, dit le loup-garou picard ou le gladiateur chauve qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour RCA. Salut Thomas.
Salut GG, salut Damien et salut à toutes. Par contre, je ne suis pas sûr que les historiens soient d'accord avec le fait qu'il y ait des loups-garous dans Gladiator 3.
Il y a plein de choses avec lesquelles les historiens ne sont pas d'accord, comme des requins dans le Colisée, des choses comme ça. On n'en est pas sûr à 100% quand même, visiblement. Bon, alors Gladiator 2 ne fera pas partie de notre palmarès, hein, les amis, ça je crois que vous l'avez compris. On va commencer par parler de notre film de l'année. Chacun est venu avec son petit film sous le bras. Et alors, je sais que Thomas, toi, tu veux nous parler d'un film de Sandhya Suri qui s'appelle Santoche, qui est sorti en plus il n'y a pas longtemps chez Blackout. Là, donc, comme ça, nos auditrices et auditeurs vont pouvoir se faire une opinion sur ce film. D'ailleurs, à l'occasion, j'en profite pour remercier Sandrine Hiver, hein, pour son aide sur cette émission. Mon cher Thomas, donc toi, tu veux nous parler d'une gendarmette indienne, mais c'est un peu différent du film avec Louis de Funès, par contre.
C'est un petit peu moins rigolo. Un petit peu, hein. Alors, Sandhya Suri, oui, la réalisatrice, en fait, c'est une réalisatrice qui est née en Angleterre et qui a vécu au Japon, mais qui a fait d'abord des documentaires, deux longs métrages documentaires, dont un sur son père qui était émigré en Grande-Bretagne. Et elle a aussi fait un court métrage, et c'est son premier long métrage de fiction. Et pour un premier long métrage de fiction, moi je trouve que c'est une grande réussite. Alors, il s'agit d'une coproduction entre le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Inde et la France. Alors qu'est-ce que ça raconte ? Santoche, c'est le nom de l'héroïne, une jeune femme qui est devenue veuve, hein, du jour au lendemain comme ça. Son mari était policier, et il y a une loi qui fait que quand un policier meurt, eh bien sa femme hérite de son travail. Donc Santoche, du jour au lendemain, devient policière. Elle doit enquêter, elle se retrouve à enquêter sur le meurtre d'une jeune fille dans une région rurale de l'Inde, une région plutôt arriérée. Et donc elle va enquêter sur ce viol, sur ce meurtre. Et va se rendre compte qu'elle va découvrir un monde de corruption et d'inégalité sociale. C'est un film plutôt âpre. Il n'y a pas de note de musique, alors ça moi j'adore, hein, parce que les films où il n'y a pas beaucoup de, où il y a pas de note de musique, ça devient de plus en plus rare, surtout du côté des États-Unis. Et c'est une peinture, c'est un film qui parle des femmes, hein, c'est, mais qui ne parle pas des femmes d'une façon, elles sont victimes, etc. Pas comme cet horrible film que j'avais vu il y a quelques années, La saison des femmes, là, qui était une horreur. Et là, ça... En parlant des femmes, il parle du cercle vicieux de la haine, en fait. Parce que, notamment par rapport à travers le personnage d'une policière qui est supérieure de Santoche, et là, on se rend compte que cette policière, en fait, du fait que les femmes subissent des viols, elles sont vitriolées à tout bout de champ pour un oui, pour un non, elles sont agressées en Inde, c'est très dur, pour les femmes c'est très dur. Et donc cette policière a développé une haine des hommes, déjà elle n'aime pas les hommes, elle aime les femmes. Et on se rend compte au fur et à mesure que cette policière va trouver un coupable, le coupable idéal, quoi. Et donc à travers cette histoire aussi, on se rend compte qu'il y a ces inégalités de caste. Et aussi que le coupable idéal, c'est un musulman, c'est un jeune musulman qui va manger pour d'autres. Moi, j'y vois beaucoup d'influences, genre du cinéma à la Sidney Lumet ou même à la Friedkin, du fait qu'elle parle de corruption et de contamination du mal, etc. Et moi, je trouve que ce film, il est vraiment excellent par rapport à ce qu'il dit sur l'Inde, sur la corruption policière, sur la place des femmes là-bas. Et c'est un film plutôt violent, plutôt âpre, et que je vous recommande vivement.
Alors, je rappelle donc qu'il est disponible chez Blackout, ça s'appelle Santoche, c'est signé Sandhya Suri. Et tu parlais, Thomas, des courts-métrages qu'elle a fait. Elle a fait un court-métrage qui s'appelle The Field en 2018, qui est présent donc en bonus sur le DVD du film. Ça raconte l'histoire de la double vie d'une laboureuse des castes inférieures. Il y a déjà un discours sur la lutte des classes, sur la condition féminine en Inde. C'est aussi un film très sensuel, ce court-métrage. Et la mise en scène... et âpre et malgré tout très incarnée, très chaude, voilà. Et puis c'est encore un portrait de femme, voilà. Donc ça vient en complément et ça éclaire aussi le film Santoche d'un autre jour. Je me tourne vers Damien qui prend toujours un malin plaisir dans son palmarès à nous parler de films assez singuliers.
Mon film préféré de 2024, pour l'instant, c'est Pauvre créature de Yorgos Lanthimos. Alors, je ne considère pas que c'est son meilleur film, mais l'un de ses meilleurs. Comme beaucoup de monde, j'ai découvert Yorgos avec Canine, qui m'avait saisi, confus et laissé avec une saveur inconnue, puis son Lobster, qui avait mis des étoiles dans mes yeux et avait enflammé mon cœur. Pauvre créature, c'est un film patchwork, dans ses genres, dans son esthétique et un peu dans ses personnages. La grande force du film, c'est son visuel assez unique au service de son histoire, celle de Bella Baxter, jouée par Emma Stone, ou plutôt son odyssée dans un monde où elle détonne, qu'elle découvre et se découvre grâce à sa curiosité. Accompagnée par un casting formidable, Willem Dafoe ou Mark Ruffalo qui est absolument délicieux, ainsi que la petite tête ou plutôt les petites fesses de Damien Bonnard qui passent dans le film, Yorgos nous a livré cette année deux films, mais mon amour va pour celui-ci parce que c'est un conte gothique, une comédie noire surréaliste et je vous invite pour ce voyage pour Pauvre créature de Yorgos Lanthimos.
Thank you.
Vous écoutez Culture Prohibée. Je précise hein, d'ailleurs hein, que comme tous les ans lors de notre émission Palmarès, vous allez écouter tout au long de l'émission des morceaux de notre album préféré à chacun. Hein. Voilà, on les dissémine dans l'émission. À vous de deviner de quel morceau et à quel album ils sont reliés. Mais je pense que c'est pas très compliqué vu qu'on a des goûts très différents tous les trois en matière musicale. Donc vous y arriverez, je pense. Moi, je vais rester alors, côté cinéma. Je vais vous parler de mon film de l'année. Et si en même temps, je vais en profiter pour pousser un coup de gueule, parce que c'est un... Je pense que pour ceux qui ont vu le film, c'est une hérésie hein, que ce film ne soit pas sorti au cinéma. Il a été programmé à la Mostra de Venise. Il a rencontré un franc succès critique. Et il s'appelle Adagio. C'est un polar de Stefano Sollima. Et... il se retrouve sur Netflix. Il a trouvé aucun distributeur cinéma. Il se retrouve sur Netflix et en plus, il faut bien chercher pour le trouver sur Netflix parce qu'il est bien planqué. Bon, après, ça, c'est les aléas, les joies des plateformes parce que, bon, parfois, c'est pas simple de s'y retrouver sur les plateformes. Mais pour moi, c'est un film extraordinaire. Alors, il y a eu pas mal de bons films cette année. J'aurais pu vous parler d'autres films, mais j'ai décidé de me consacrer à celui-ci parce que justement, il a été relégué sur une plateforme, alors que pour moi, il méritait amplement une sortie cinéma. L'histoire du film, elle est assez simple, en fait. Hein. Stefano Sollima, qui est le fils du grand Sergio Sollima, mais qui commence, lui, Stefano Sollima, à quand même avoir une belle filmographie, hein, qui est quand même l'auteur, certainement, d'une des meilleures séries télé de ces 10 dernières années avec Gomorrah, qui est une série fantastique sur ce qu'est la mafia. Faire toute une saison sur la gestion d'un aéroport par la mafia, bon, bah, c'est pas très glamour, mais ça, c'est révélateur de ce qu'est vraiment la mafia, c'est-à-dire comment elle est infiltrée dans tous les circuits financiers et tout, c'est assez passionnant. Il y a eu aussi Triple Zéro sur le trafic de drogue, très âpre, très dur, série assez passionnante, enfin mini-série, hein, voilà, plutôt un grand film découpé en petits morceaux. Et puis il y a eu, des différents films, mais il y a surtout eu trois films. Donc ACAB pour All Cops Are Bastards, Subura Et puis, où à chaque fois, en fait, d'ailleurs, il y a les mêmes acteurs. Il y a Pier Francesco Favino, grand acteur hein, qu'on connaît tous pour avoir été, le héros d'un film méconnu italien, extraordinaire, polar, poisseux, nocturne, qui s'appelle Dernière nuit à Milan, un film d'Andrea Di Stefano, et pour avoir été l'inoubliable interprète du rôle principal du film de Marco Bellocchio, Le Traître. Difficile après ça de contester le talent de cet acteur. Et Pier Francesco Favino, il est le lien en fait entre ces trois films de Stefano Sollima, où Stefano Sollima, s'intéresse, comme toujours, à ces mêmes sujets de prédilection, à la corruption de la société italienne, à tous les niveaux, à la mafia aussi évidemment, mais aussi à la police. Et là, on retrouve tout ça dans à la politique, aux politiques aussi. Hein. Tout ce qu'on retrouvait dans les deux premiers volets de cette trilogie, donc Acab et Subura, on le retrouve dans ce troisième volet, à travers l'histoire d'un jeune homme, en fait, qui est le fils d'un mafieux vieillissant qui est en train de devenir sénile, qui est interprété par, l'acteur mythique Tony Servillo, l'acteur fétiche de Paolo Sorrentino. Et puis là, donc ce vieil homme a un fils très jeune. Et ce fils très jeune, il est pris dans un drôle de traquenard, en fait. Il y a des flics véreux qui essayent de lui rançonner des renseignements. Il doit piéger un homme politique qui serait... Alors, qui prend de la drogue, mais surtout qui serait homosexuel, parce qu'il y a aussi, on parle de l'homophobie en Italie aussi dans ce film, d'une manière un peu détournée. Et puis, pas détournée, non, mais je veux dire, c'est pas le sujet principal. Le sujet principal étant la corruption. Mais enfin, on aborde bien toutes les facettes assez méprisables de la société italienne. Ça se passe à Rome, c'est important de le préciser aussi. Et en fait, il peut pas, il n'arrive pas. Ce gamin a piégé ce politicien. Donc il est obligé de se planquer, de s'enfuir, parce qu'il est poursuivi par les flics qui sont à peu près l'équivalent en fait de ces des brigands de l'autre côté. Et là, il va se réfugier chez une sorte d'ennemi juré de son père. Hein. Il va chez le Chameau, donc qui est interprété par Pier Francesco Favino, qui est méconnaissable, je ne l'ai pas reconnu tout de suite, moi, en fait, qui fait donc un cancéreux en fin de vie. Il n'y a plus un poil sur le caillou, il a la même chevelure que notre ami Thomas Roland, et il est en état de décrépitude avancée, et va se nouer entre les deux une étrange relation, et il va être comme une sorte, comme un peu en mission, Pier Francesco Favino, pour essayer de sauver le peu d'humanité qui reste dans cette ville, c'est ce gamin en fait. Et alors, le film est vraiment génial, on aurait pu croire en plus que Sollima, qui a quand même été tâté d'Hollywood, qui a fait des films d'action, qui a fait par exemple Sicario 2, on aurait pu croire que Sollima allait se laisser tenter par l'action. Non, il va à contre-courant. Et dès le début, avec ce plan zénital, les hélicoptères qui arrivent sur la ville de Rome, on voit très bien ce qu'il veut faire. C'est-à-dire, il décrit une cité assiégée, entourée par les flammes, parce qu'il y a des flammes à cause du changement climatique et de l'aridité autour de Rome. Donc il y a des incendies et en fait le centre-ville de Rome, c'est le lieu de la corruption, et la banlieue romaine qu'on ne voit jamais en fait, quand on va à Rome on ne voit jamais dans ces coins-là, on ne s'imagine pas qu'il y a des coins aussi moches dans Rome, et il filme quasiment que ça pendant tout le film. La banlieue romaine, c'est le lieu de la subure, c'est là où tout va se jouer en fait, où se retrouvent nos bandits, nos gens de peu, voilà. Au final, le film est un film extraordinaire. C'est une sorte de, comment dire, c'est pas qu'un simple film sur la rédemption, hein, parce que le film n'est pas manichéen. Le flic de l'autre côté, lui-même, n'est pas qu'un salopard. C'est un bon père. D'ailleurs, idolâtré par son gamin. D'ailleurs, il peut rappeler le personnage de Pier Francesco Favino dans Dernière nuit à Milan. Voilà, les films dialoguent un peu comme le film de Sollima dialogue avec le cinéma de Sorrentino. C'est-à-dire que le cinéma de Sorrentino, qui est un écrin magnifique, avec toujours une beauté picturale extraordinaire, et qui filme magnifiquement la ville de Rome et le Vatican, hein, dans la série The New Pope, eh bien, Sollima, il lui renvoie l'inverse de ça. Il lui renvoie les bas-fonds de Rome, il lui renvoie la misère romaine, qui est là aussi. Il y a ce centre-ville où s'ébattent les riches, où il y a du tourisme à outrance. Tout ça, c'est réservé à des gens qui ont de l'argent. Puis il y a autour. Voilà. Donc, et donc, il y a le côté crade. Et le film, en plus, dégage une incroyable mélancolie avec des scènes d'une amplitude extraordinaire. Le final est sublime. Au final, le film ne nous raconte pas la fin d'un monde. Il nous raconte la fin du monde, concrètement. Et Rome et la région du Latium donc, sont engloutis par les flammes, comme Pompéi en Catenie, lors d'un climax où Stefano Sollima, en fait, ne laisse poindre une part d'humanité qu'à travers le regard d'un mafieux mourant qui a assassiné plus d'hommes à lui seul qu'un régiment de légionnaires à Fidène. Donc c'est beau, c'est puissant, c'est tragique, c'est un portrait formidable d'une Italie à la dérive. Hein. Et Adagio, c'est sans doute le meilleur film de Stefano Sollima. Est-ce qu'on osera dire que c'est son chef-d'œuvre ? Je ne dis pas que c'est forcément un chef-d'œuvre, mais c'est son chef-d'œuvre à lui en tout cas, son film le plus maîtrisé. Et dire qu'il n'est sorti dans aucune salle, je pense qu'on peut crier au scandale, mais on peut quand même se rattraper en le voyant sur Netflix. Écoutez Culture Prohibée spécial palmarès 2024. Je vais me tourner vers Thomas. Thomas qui est une bibliothèque à lui tout seul et qui donc est venu avec son livre de l'année.
Alors souvenez-vous, à la fin des années 80, naissait la collection Pocket Terreur qui a publié de nombreux auteurs, alors plus ou moins méconnus. Et parmi eux, il y avait Michael McDowell avec deux titres, Les Brumes de Babylone et Cauchemar de Sable. Puis il y eut un sommet de la littérature glauque avec Topline, édité par les éditions Gréco dans leur très éphémère collection Antise. Très éphémère parce qu'il y a eu trois titres. Et ce n'est qu'en 2009, soit 10 ans après sa mort, que nous parvient Calliope, son roman inachevé que Tabitha King, l'épouse de Steven, s'était décidée à terminer en 2006. Bien auparavant, en 88, les amateurs de fantastique avaient déjà pu faire connaissance avec l'écrivain par le biais du cinéma. Il en est fait le co-scénariste de Beetlejuice de Tim Burton. Et depuis quelque temps, les éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture se sont attelées à la tâche d'éditer ou de rééditer les romans de Michael McDowell. Ainsi, Les Brumes de Babylone est réédité sous la traduction littérale de son titre original, Lune froide sur Babylone. L'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui s'intitule Cathy et relate un duel sans merci entre deux jeunes filles du 19e siècle. En 1871, la désargentée et intrépide Philomela Drax reçoit une lettre de son richissime grand-père, déclarant qu'il craint pour sa vie à cause d'une famille peu scrupuleuse, les Slape. La jeune fille se précipite alors à la rescousse en se faisant passer pour une servante répondant à une annonce. Seulement, Cathy Slape, une jeune femme dotée d'un don de voyance et d'un bon coup de marteau, fait partie des scélérats et Philomela arrive trop tard et tombe dans un piège. Soupçonnée du meurtre de son grand-père, elle est contrainte de fuir. Bien décidée à confondre Cathy, elle se retrouve à New York. Entre le roman victorien et le suspense horrifique, Cathy propose une peinture détaillée et sans concession de la fin du 19e siècle aux États-Unis. Il en profite pour égratigner les convenances, comme il faisait déjà dans Les Aiguilles d'or, paru l'année précédente, les rapports de classe étant l'un de ses thèmes récurrents. Chez Michael McDowell, la lutte des classes se révèle souvent bien sanglante, surtout par le biais de Cathy, qui, pour dépouiller les riches jeunes femmes, manie le marteau avec une certaine dextérité. Alors, dans ces moments les plus horrifiques, le roman décrit des scènes sordides qui reflètent le manque de probité de cette famille prête à tout pour de l'argent. L'auteur prend d'évident plaisir à décrire des éclats de violence qu'à dessiner des personnages de femmes fortes et résolues. Certes, il y a un petit côté conte avec le personnage de Philomela qui arrive à se faire une place dans la bonne société, mais cela ne se fait pas sans mal et quelques passages cruels. Tout cela fait de Michael McDowell un excellent conteur et Cathy, tout comme ses autres livres, est difficile à lâcher. Je le rappelle, Cathy de Michael McDowell est parue aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture.
Moi, je vais rester, Thomas, chez Monsieur Toussaint L'Ouverture. Hein. Très bonne maison d'édition. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en parle pas énormément dans l'émission. On en parle de temps en temps, mais il faut le souligner. Hein. C'est vraiment une très bonne maison d'édition. Et je vais vous parler d'un livre. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas très original, mais c'est quand même un livre totalement culture prohibée. Je veux dire, voilà, c'est difficile de passer à côté. C'est l'un des événements de la fin d'année. Alors, j'ai failli vous parler de romans noirs et de la collection Totem et d'un auteur italien. Je garde ça sous le coude pour de prochaines émissions, voilà, que j'ai découvert grâce à mes amis, cette collection Totem, là, et depuis j'en achète plein et j'en lis plein, voilà. Donc, et j'ai découvert cet auteur là, mais je vous en dis pas plus. Et je vais rester là sur, bah, c'est une valeur sûre, certes, c'est Émile Ferris. Alors, Émile Ferris qui vient de signer, moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Le livre deuxième, donc le tome 2, qui est traduit par Jean-Charles Califa. Je peux vous dire que c'est un sacré boulot que fait l'éditeur, parce que c'est pour ceux qui connaissent, moi ce que j'aime c'est les monstres, c'est en fait un roman graphique comme on dit maintenant, parce que il y a certaines BD qu'on qualifie abusivement de romans graphiques parce qu'il faut vendre du livre au gogo, parce qu'il faut dire « Bon, bah allez, t'as le droit d'acheter de la BD, bah, c'est pas si grave, c'est aussi pour les adultes. » Voilà, nous, il y a longtemps qu'on le sait. Mais là, par contre, on peut vraiment qualifier ce bouquin de roman graphique parce que là, c'est une expérience. Hein. On est à la limite de quelque chose de très artiste et très conceptuel, en fait, puisque Émile Ferris, c'est quelqu'un qui travaille sur des carnets à petits carreaux et qui dessine tout au stylo bille. C'est absolument démentiel. Ce qui explique sans doute qu'il y a 6-7 ans entre la parution des deux volumes, là, voilà, c'est une plongée introspective, en fait, dans la tête d'une adolescente maintenant. Hein. Elle était plus petite dans le premier, Karen Reyes, mais maintenant elle est plus grande. Bon, sa voisine, qui était un peu sa sorte de muse, Anka Silverberg, qui avait disparu, qui a été tuée, en fait. Et elle cherche toujours à élucider ce meurtre. Mais en même temps, elle décrit, en fait, elle, ce qu'elle voit à travers ses yeux à elle. C'est-à-dire qu'elle se voit comme un loup-garou. Donc, dans la BD, elle se dessine en loup-garou. Hein. Elle a une tronche de petit loup-garou. Donc pour ça, c'est une BD pour Thomas Roland. Ça, voilà, c'est une petite loup-garoute, j'ai envie de dire. Et on est aussi à un moment où elle se questionne sur ses orientations sexuelles, la petite Karen Reyes. Et en même temps, où elle découvre l'art, alors il y a des trucs incroyables, en fait, puisqu'on a une sorte de... Dans ce livre... parce que ça raconte quoi ? Elle continue son enquête, en fait, et elle découvre une faune interlope, un monde souterrain, parce qu'elle est à Chicago, dans le uptown de Chicago, dans les quartiers un peu quand même bien flippants. On est dans les années 60. Elle se retrouve orpheline avec son grand frère pour s'occuper d'elle. Son grand frère, qui est un super artiste, qui dessine des couvertures de Pulp Magazine. Donc, c'est pas son seul revenu. Il fricote aussi avec la mafia. C'est un drôle de type. Voir ce serait peut-être même un tueur à gages. Donc ça, petit à petit, c'est quelque chose qui grandit dans le récit. Mais en même temps, c'est son seul confident et ils s'aiment d'un amour fou. Le frère et la sœur, ils s'adorent et ils se protègent mutuellement. Voilà. Et elle mène l'enquête avec cet homme. Elle mène l'enquête aussi avec un militant afro, marxiste, mais aussi très, très méfiant des théories, qui parfois verse aussi dans la théorie du complot. Enfin, on est en plein dans les années 60 avec un bouillonnement intellectuel, politique, et en même temps, il y a une sorte de synthèse entre ce qui est en train d'émerger à l'époque, c'est-à-dire le pop art, et l'art classique, puisqu'elle va très régulièrement à l'Art Institute de Chicago, et donc l'autrice, elle reproduit dans la BD, au stylo bille, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de la prouesse que c'est, pour ceux qui tâtent un peu du dessin comme moi qui ai fait un peu d'illustration, je peux vous dire qu'il y a un boulot, mais alors on comprend qu'elle mette 6-7 ans à faire un volume, où elle reproduit des peintures et après elle va les modifier, y rentrer des détails par rapport aux visions de cette gamine ou aux visions que peut avoir son frère. Donc on y croise que des choses passionnantes en fait dans ce deuxième volume. En dehors du graphisme et de l'aspect plastique absolument unique, on y croise aussi une réflexion sur l'orientation sexuelle. On a aussi un développement des théories politiques marxistes, la lutte contre le racisme, la lutte contre les violences policières, qui est un thème central de cet ouvrage, dont on voit en fait que les violences policières, évidemment, on le sait, hein, mais elles ne datent pas, des récents, malheureusement, tristes événements qu'il y a eu aux États-Unis ces dernières années, qu'elles sont déjà là, à l'époque, et puis qu'il y a cette corruption aussi entre la police, la mafia, ces liens. Et le livre est aussi une promenade, alors, à la fois dans la tête de Karen Reyes, donc dans la tête d'Émile Ferris, et aussi dans un monde interlope incroyable, où il y a comme des labyrinthes sous la ville, il y a une ville en fait, une ville sous la ville, une cité souterraine, il y a une sorte de sub-Chicago, voilà, on peut dire ça comme ça, dans laquelle en fait plane totalement, parce que c'est ça qui est génial en fait, on arrive à brasser tout un pan de l'histoire contemporaine, plane constamment l'ombre de la Shoah en fait. Donc, et ça en fait quelque chose de totalement passionnant, et qui aussi, pour les amateurs de culture populaire comme nous, va s'aventurer du côté de la série B, du film d'horreur, la littérature pulp, en ne segmentant pas en fait la bonne culture de la mauvaise culture. C'est-à-dire, c'est aussi bien en fait les couvertures de Pulp Magazine que les tableaux qui sont exposés au Art Institute of Chicago. Et c'est ça qu'elle se dit, cette gamine, et c'est ça qui est génial. Et c'est un peu ça tout l'objet de notre émission, d'ailleurs, depuis des années. Donc, c'est pour ça que cette BD me passionne. Donc, ça s'appelle « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres ». C'est le tome 2. Donc, c'est comme ton livre, Thomas. C'est chez Monsieur Toussaint Louverture. C'est signé Émile Ferris. Je pense que vous le trouverez assez facilement en librairie, puisque c'est quand même un best-seller. Mais on ne pouvait pas passer à côté de ce monument dédié à la contre-culture.
Je ne sais pas si je dois être inquiet que mon coup de cœur se rapproche un peu du tien, Jérôme. Mais on va rester dans l'univers de la BD avec une œuvre qui est légèrement conceptuelle et qui est plus ou moins autobiographique. Cette œuvre, c'est un bijou, cette œuvre, c'est un chef-d'œuvre, cette œuvre, c'est It's Lonely at the Center of the Earth de Zoe Thorogood, publié chez iComics. Alors déjà, premièrement, je suis dévasté qu'elle ait été nommée au Eisner Award en 2022 pour meilleur artiste et meilleure mémoire graphique et qu'elle n'ait eu aucune récompense. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire la quatrième de couverture parce que je trouve qu'elle résume parfaitement bien cette œuvre. En proie à une profonde crise existentielle, la dessinatrice Zoe Thorogood consigne 6 mois de sa vie dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle d'elle-même et de son destin en cédant d'un seul moyen à sa disposition, son art. It's Lonely at the Center of the Earth se donne à lire comme un aperçu intime et métanarratif du quotidien d'une artiste égocentrée qui, pour pouvoir survivre, se doit de créer. Crise existentielle, tentative désespérée de reprendre le contrôle, métanarratif, son art. Zoé se présente sous plusieurs formes dans son histoire. Elle, dont elle est assez proche au niveau du corps, une autre forme assez monstrueuse qui symbolise sa dépression, qui me rappelle un peu le Dark Side A de Tom King et de Mitch Gerard dans Mr. Miracle, assez terrifiant, uniforme, sombre, avec des oreilles pointues et un visage humain qui dépasse et qui très souvent la dévore. Chaque pensée offre un nouveau concept dans son histoire. D'une page à l'autre, tout se chamboule dans un contexte assez difficile et intime. Par exemple, une des pires choses pour elle, c'est quand elle va dans les conventions et qu'on la remercie, notamment parce qu'elle publie énormément de pages sur Internet à travers sa dépression et sa vie. Et à chaque fois qu'on va la voir, les personnes sont heureuses parce qu'ils lui disent qu'ils peuvent s'identifier et qu'ils se sentent moins seuls. Et elle, ça la plonge dans une détresse et une colère parce que son malheur, son cri de désespoir, il est à elle. Et elle a l'impression qu'en fait, on s'approprie son malheur alors qu'elle le vit avec une intensité assez grave et assez affreuse. Mais surtout, ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle est inventive dans le chaos et dans son existence. Un de mes moments préférés dans le roman graphique, c'est plus ou moins au milieu, où en fait, depuis le début, elle essaye de se sortir de cette dépression. Elle discute avec les autres personnages et au bout d'un moment, elle fait « Non, mais en fait, l'histoire ne va pas dans mon sens. » Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait un truc qui est extrêmement simple, c'est qu'elle décide en fait de reprendre son histoire depuis le début. Et pour reprendre son histoire depuis le début, c'est quelque chose de très simple, c'est qu'elle redessine la couverture et qu'elle recommence à réécrire son histoire. Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement inventif, mais durant toute son histoire, vous allez avoir plusieurs pages qui vont être assez particulières. Vous allez avoir ce qu'on va appeler les cases classiques, où on va avoir le gaufrier que tout le monde connaît, d'autres pages un peu plus compliquées où en fait elle va utiliser le gaming pour raconter son histoire, notamment comment est-ce qu'elle peut percevoir éventuellement les fans. On va avoir d'autres pages qui vont être en dessin, un peu comme si on discutait numériquement avec elle. Généralement quand elle est au fond de sa dépression et qu'elle est incapable de dessiner, c'est ça qu'elle va utiliser. On va aussi avoir des photos, mais surtout ce que j'apprécie, c'est sa fin douce amère où finalement le cauchemar ne s'arrête pas mais la vie non plus. Alors ça pourrait être la morale de ce petit bijou magique et puissant de Zoë Thorogood nommé It's Lonely at the Center of the Earth, qui est disponible chez iComics.
Spécial palmarès 2024.
Oh,
Nous allons terminer cette émission par notre, comment dire, notre disque de l'année. Hein, et je vais me tourner vers Thomas Roland, qui lui se dirige tout droit, je crois, vers Kinshasa.
Et oui, on retourne à Kinshasa, une fois n'est pas coutume, parce qu'à Kinshasa a émergé il y a quelques années un groupe qui s'appelle Kokoko. Alors Kokoko, c'est quand on est là-bas, Kokoko, c'est on frappe chez les gens, on fait Kokoko, puis les gens ils disent entrez, voilà. Donc le groupe s'appelle Kokoko, et il est apparu il y a plusieurs années, mais en 2019, ils ont sorti un premier album, il s'appelle Fongola. Et cette année, ils reviennent avec un deuxième album, donc, intitulé Boutou, qui signifie la nuit en Lingala. Cette fois, le son est beaucoup plus ample, plus électronique et plus furieux aussi. Et si l'album innove sur le plan sonore avec une texture plus dense, le style et les mélodies ressemblent beaucoup plus au précédent. Mais avec des rythmes bien plus frénétiques, rendus par ce mélange de synthétique et de mélodies percussives. Cela donne un mélange détonnant d'afro, dance, punk, qui reflète bien l'atmosphère de la ville de Kinshasa. Étrange rencontre entre tradition et modernité, croyances et pensées contemporaine. Avec un tel titre, Boutou s'annonce sombre et fait évoque en effet les difficultés que rencontre la RDC, le conflit à l'Est, la résistance. Donc Boutou est un album engagé, politique, torride, qui respire l'urgence et allie cette gravité et ce côté festif qui ressortent de cette tumultueuse ville de Kinshasa.
Alors je précise que Boutou, donc de Kokoko, est disponible sur le label Transgressive. Voilà, si vous voulez acquérir ce disque dont vous avez pu entendre quelques extraits au cours de l'émission. Et on va passer du label Transgressive à Atlantic Records, donc avec notre ami Damien Demey, qui est allé nous pêcher un titre, un artiste, comment dire, dans cette mythique maison quand même. Atlantic, c'est pas n'importe quoi.
Est-ce que vous connaissez The Warriors, de son nom français Les Guerriers de la Nuit de Walter Hill, sorti en 1979, adapté librement du livre éponyme de Saul Uric, publié en 1965? Normalement, la réponse, c'est oui, surtout chez Culture Prohibée. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je vais résumer le film. Il se passe dans un New York fictif des années 70, infesté par des gangs. Il raconte l'histoire du gang des Warriors, issu de Coney Island, qui se rendent au cœur de New York, dans le Bronx, pour une réunion intergang. Cyrus, le leader incontesté des tout puissant Gramsci Riff, décide d'organiser cette assemblée afin d'unifier tous les gangs et de lever une véritable armée contre les forces de l'ordre et la mafia. Très vite, la réunion dérape, Cyrus se fait assassiner et le coupable fait porter le chapeau aux Warriors, déclenchant alors une course-poursuite. Les Warriors essayant de rentrer chez eux, les autres gangs new-yorkais essayant de se venger de la mort de Cyrus et les policiers essayant de les coffrer. See from the top of the Wonder Wheel, the Warriors are here. Come out, come out, come out, come out. From Coney Island Creek to the Stillwell subway station, the Warriors are here. Come out, come out, come out, come out and play. We keep it safe, we keep it clean. When shit goes down, we intervene. Every summer we go to war with every fly-by-night gang who wants to see the shore. And we hold this. We gotta go uptown. Cyrus holds the crown. Think we need a better reason. We've never gone that far uptown. The truth is on, and Cyrus made that happen. Word. And the truth is, we all wanna know what happens now. If the night goes sideways, what? We really should be packing. No. And we're stuck. Get ready. Vest on. We ready. Coaches. Girl. Fox. Cleon. Ajax. Rembrandt. Swan. We in the Bronx. Hey, boppers. It's midnight.
Robin's back at home, don't pack no chrome. Hey boppers, rep your set with your head high. Can unify all of NY. We run the night.
Est-ce que vous vous souvenez de Lin-Manuel Miranda? On en avait parlé dans la spéciale comédie musicale à travers In the Ice et Tick Tick Boom. Et bah, il a sorti un album hip-hop comédie musicale Warriors reprenant le récit avec quelques changements. Alors notamment ici, les Warriors sont toutes des femmes, ce qui donne une autre dimension à se faire pourchasser dans la nuit par des hommes d'autres gangs, une dimension assez moderne, en plus d'exacerber certains points, notamment le côté danger de la situation. De plus, on sait ce que devient Cléon, ce qu'on n'avait pas vraiment dans le film, après sa capture et le meurtre de Cyrus. Il y a un morceau qui s'appelle Still Breathing, qui a un petit côté 12 hommes en colère avec presque une battle de rap, ce qu'il avait déjà fait dans la comédie musicale Hamilton, où Hamilton et Madison se battaient devant George Washington pour essayer de le convaincre à travers ses idées. Autre chose, chaque gang a son style musical. C'est quelque chose qu'il avait déjà fait dans le Disney Encanto, où en fait chaque personnage avait un peu son style musical à lui. Alors, ici, vous vous souvenez sans doute de la course-poursuite avec le bus, avec les Warriors qui essayent d'attraper un métro, mais il y a un bus qui est rempli de gangs qui viennent pour s'en prendre à eux. Bah, cette fois, c'est remplacé par une musique assez hip-hop latino. Et dans le film, la musique qui annonce ces courses-poursuites, elle s'appelle Nowhere to Run, pour montrer aux Warriors qu'en fait, ils sont piégés dans le Bronx et qu'ils ne pourront pas en partir. Bah, là, Miranda la récupère et l'appelle Leave the Bronx Alive, dont les paroles sont assez simples. Vous ne quitterez pas le Bronx en vie, seuls les plus forts peuvent y survivre. Deux derniers points, j'adore la façon dont la musique s'emballe dans certaines scènes, dont notamment Leave the Bronx Alive, où justement au moment où on va avoir la course-poursuite, le bus qui va se lancer derrière eux, la musique va accélérer. C'est quelque chose qu'on retrouve dans Derailed, au moment de la mort de Cyrus et au moment où Cléon ordonne à son gang de se disperser et de fuir. La plus grande force de Lin-Manuel Miranda, c'est de donner des gimmicks et des thèmes musicaux à des personnages bien définis qui permettent de les reconnaître à la fois la personne qui parle, mais aussi de savoir à qui on fait référence. Souvent, on va avoir ce qu'on appelle des échos musicales, c'est-à-dire qu'il va y avoir un thème musical qui va souvent revenir pour les définir. Et ici, le thème musical, c'est le tout premier morceau de cet album, Survive the Night. Warriors de Lin-Manuel Miranda est absolument génial et vous pouvez le retrouver chez Atlantic Records.
Moi, je vais bifurquer vers Third Man Records. Et Third Man Records, vous savez tout de suite, si vous êtes amateur de rock, vous savez tout de suite que Third Man Records, ben c'est quoi ? Ben c'est le label de Jack White. Et oui, Jack White, la légende du garage rock, le mec qui a relancé le rock à lui tout seul, je veux dire, qui a créé des hymnes pour les stades sans le savoir, un pur génie, hein, à la base un mec de Détroit, voilà, qu'on adore tous. Enfin, moi, j'adore, pour moi, Jack White, c'est vraiment extraordinaire. Il a fait renaître le garage rock avec The White Stripes. Évidemment, tout le monde connaît The White Stripes. Ce sont démentiels, où ils étaient simplement deux. Un batteur, enfin une batteuse pour être exact, Meg White, hein, sa compagne, et enfin son ex-compagne, et lui à la gratte et à la voix, avec cette voix absolument extraordinaire, dont on a à chaque fois l'impression que ses cordes vocales vont péter, mais il tient, c'est incroyable. Alors ils vont faire 7 albums entre 99 et 2010, et qui sont tous bien présents évidemment dans ma collection de disques, hein, et ils contiennent donc évidemment. On l'a dit, hein, Seven Nation Army, le grand, grand hymne rock des années 2000. Et puis Icky Thump, par exemple, qu'on retrouve dans plein de films. En fait, tous leurs morceaux sont quasiment, de toute façon, dans la BO de tous les films américains qui sortent. C'est vraiment un groupe majeur. Alors, il a eu des aventures à part. Il a fait The Dead Wizards, il a fait The Raconteurs, il a des petits groupes. Mais depuis 2012, il s'est surtout lancé dans une carrière solo. Il a fait 7 albums, inégaux, hein, tout n'est pas extraordinaire, tout n'est pas du niveau génialissime de The White Stripes. Et là, avec No Name, qui est son dernier album, là, qui est paru cette année, on peut dire qu'il signe son meilleur album solo, en tout cas. Et qui reste, en fait, au niveau blues rock, ça reste un boss, quoi. Voilà, un des boss indéniablement dans le rock mondial, dans le blues rock mondial. Il garde toujours ce côté poisseux. On a toujours l'impression, quand il joue sur sa guitare, qu'il va péter les cordes, quoi. On est toujours, en fait, comme dans sa voix, dans son jeu de guitare, toujours à la limite de la dissonance. On ne sait jamais jusqu'où il va aller. C'est assez génial, avec des gros riffs qui restent bien en tête et puis des, une ligne de basse qui tabasse. Quoi. Franchement, il n'y a, pas d'autre mot. Là, je pense au morceau What's the Rumpus, par exemple. Et puis, bon, de toute façon, l'album, vous ne le lâcherez pas. Il commence par un morceau qui s'appelle Old Scratch Blues, qui vous prend direct, vous le prenez en pleine face, qui est un titre qui envoie du lourd tout de suite. Je n'ai pas à décrire plus que ça en techniquement, ce qui est un morceau de Jack White, parce que ceux qui connaissent Jack White savent ce que c'est du bon gros blues rock qui envoie, mais avec un son très particulier, un son très dissonant, qui donne cette, comment dire, qui donne cette personnalité bien particulière au travail de Jack White, qu'il a évidemment concocté dans son propre studio à Nashville, à Third Man Records, parce qu'il faut aussi signaler que le bonhomme fait vivre toute une microéconomie, fait vivre plein de gens à travers Third Man Records, installe des usines de pressage là où il habite pour ne pas recourir à des usines de pressage loin qu'on paierait moins cher et pour faire travailler l'économie locale. Donc c'est un type en plus qui a plutôt une vision intéressante de son métier. Et évidemment, je ne peux que vous conseiller ce super disque qui s'appelle No Name. Donc c'est signé Jack White, c'est disponible chez Third Man Records et c'est tout de suite à balancer dans vos esgourdes. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Manien, à la technique.